Le Parlement belge a aboli officiellement la peine de mort le 13 juin 1996. Quelques jours plus tard, un lundi, 8h20.
Je descends du tram 93 à l'arrêt de l'avenue Louise. La température dépasse les 30 degrés. Je traverse le boulevard, j'entre dans le palais de justice. J'arpente les longs couloirs. Je pénètre dans la salle que l'huissier m'a indiquée. Une centaine de personnes s'y trouvent. On s'observe du coin de l'œil. Aucun groupe ne se forme. Personne ne connaît personne.
8h45. Un greffier commence l'appel. Tour à tour, chacun lui présente sa carte d'identité et sa convocation, puis est dirigé vers la salle du procès.
Quand tout le monde est installé, le juge président apparaît. Il est flanqué de deux autres juges et de l'avocat général. Ils ont revêtu leur tenue de cour. La dentelle et l'hermine relèvent la pourpre des robes. Cet apparat, conjugué à la solennité du lieu, en impose. Sensation hiératique. Les juges s'assoient et déposent leur toque sur le pupitre. La cérémonie peut commencer. Nous avons été convoqués pour constituer le jury d'une cour d'assises.
Le président souhaite à tous la bienvenue et s'enquiert des demandes de dispense.
Il y en a plusieurs. Qui ne peut abandonner son travail, qui est enceinte, qui souffre de grippe, qui doit préparer ses examens, etc., etc. Le président se gausse parfois des motifs invoqués, mais accorde généralement les dispenses demandées.
Ceux qui restent sont alors appelés l'un après l'autre. Ils doivent se présenter devant l'avocat général et l'avocat de la défense, qui ont le pouvoir de les récuser.
Cette procédure est excessivement rapide. Accepter, récuser, sans dialogue, sans explication. Sur quoi se base ce verdict expéditif? Que savent de nous l'accusation et la défense? L'accusé a-t-il accès à la liste des personnes présentes? Le manque de transparence de cette procédure provoque en moi un léger malaise. Les personnes récusées ne cachent pas leur satisfaction. Elles s'éloignent à pas rapide, comme si elles craignaient d'être interpellées à nouveau.
Des papiers sur lesquels sont inscrits les noms des personnes retenues sont mélangés dans une urne. Le président procède au tirage au sort. Il faut 12 jurés et 4 suppléants. Le premier dont le nom sort devient le juré numéro 1, en principe président du jury, le deuxième le juré numéro 2, et ainsi de suite.
On arrive à la désignation du dernier juré. Il reste une vingtaine de personnes concernées, une chance sur 20 d'être désignées. Je pense déjà à ce que je vais entreprendre en cette éclatante journée d'été quand le président prononce mon nom. Je serai le juré numéro 12. Jusqu'à la fin du procès, on ne nous appellera plus par notre nom. Nous serons juré numéro 7 ou juré numéro 10. C'est même ainsi que nous nous appellerons entre nous. 7 hommes et 5 femmes composent le jury. La moyenne d'âge doit avoisiner les 50 ans. Les autres sont venus en tenue légère. Je trouve choquant de juger un accusé en tenue de vacances. Le règlement ne devrait-il pas prévoir que chaque juré endosse une robe rouge ou mauve? Cette perspective m'amuse. Mais déjà le greffier nous conduit à notre local.
Ce local jouxte la salle des audiences. C'est une très petite salle, 15 mètres carrés peut-être. Pas de fenêtre, une table, 12 chaises autour, un isoloir contre un mur. De l'autre côté, un poêle au charbon. La chaleur est suffocante. Devant la porte d'entrée, un petit espace, 4 mètres carrés environ. Une porte vers les toilettes. Un gigantesque thermos rempli de café est posé sur une petite table.
Je suis stupéfait par l'exiguïté et l'indigence de ce lieu. Réduit, lugubre, incitant à tout, sauf à l'envie de s'y retrouver pour débattre ou réfléchir.
Lundi, 11h.
Pour la première fois, nous prenons notre place dans la salle d'audience. Nos sièges sont défoncés et fixés trop près les uns des autres. Promiscuité inconfortable. On a déroulé les tentures des grandes fenêtres pour empêcher le soleil d'embraser l'espace. Il n'y a pas de climatisation. L'atmosphère est étouffante. Les audiences auront lieu dans la pénombre. Le président de la cour égrène diverses consignes pratiques. Notre fonction nous donne droit à une place réservée de parking. On nous délivrera des certificats. Nous recevrons un très modeste dédommagement. Si l'on est empêché de venir, il faudra immédiatement avertir le greffier, etc., etc. Adoptant un air très sérieux, le président nous déclare ensuite que, tout le long du procès, nous aurons le statut et la responsabilité de juge à part entière. Il ne s'étend pas outre mesure sur le rôle que nous aurons à jouer. Selon la formulation qu'il nous dicte, nous jurons.
D'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M. Abdel Benadi, l'accusé, de ne pas trahir ni les intérêts des accusés, ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'après notre verdict, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de nous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant notre conscience et notre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre.
L'accusé entre dans la cage de verre située en face de nous, à une dizaine de mètres environ. Deux gendarmes l'accompagnent. Il lui enlève ses menottes et se place à côté de lui. C'est un jeune homme. 20 ans, peut-être 25 tout au plus. Mince, assez grand, vêtu d'un complet foncé, chemise blanche et cravate bleue. La coupe des cheveux est soignée. Il a l'air timide et apeuré. Une certaine émotion gagne le banc des jurés. Nous voyons pour la première fois l'homme que nous aurons à juger.
On passe à la lecture de l'acte d'accusation dont on vient de remettre une copie au juré.
Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles expose que la cour, par arrêt du 18 avril 1996, a envoyé devant la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale le dénommé Abdel Benami, né à Anderlecht, le 1er avril 1961, sans profession, domicilié à Bruxelles, détenu, accusé du crime prévu par les articles 66.
Les jurés ne connaissent forcément rien de l'affaire. Les 50 pages de l'acte d'accusation sont lues à une telle vitesse qu'on n'y comprend quasiment rien, même si l'on s'applique à suivre la lecture dans le texte.
Avec la circonstance que les violences ou les menaces exercées sur la personne de Jacques Leroy, né le 15 mai 1937, sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causé. Sur quoi la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale aura à statuer vers Bruxelles au parquet général le 3 mai 1996, pour le procureur général signé Agnès Baupin.
Lundi, 13h.
Pendant la pause de midi, on peut soit rester dans le local des jurés, recevoir gracieusement des sandwichs, soit payer une modique somme et se restaurer à la cantine du palais. Aujourd'hui, je ne désire ni l'un ni l'autre. Je veux être seul et reprendre mes esprits. Tout a été si vite. Je flâne du côté de l'avenue Louise. Je m'installe à une terrasse. Le soleil inonde l'artère. Un petit bonheur.
La loi vous prescrit de vous interroger vous-même dans le silence et le recueillement et de vous forger une intime conviction.
Le président a affirmé que la loi ne prescrit pas de règles déterminant ce que serait la plénitude et la suffisance d'une preuve. De plus, elle ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus de l'innocence ou de la culpabilité d'un accusé. Attention, il ne s'agit pas de se convaincre mutuellement et d'aboutir à un jugement unanime, car les décisions seront prises selon la règle de la majorité. Il me semble qu'à défaut de critères d'objectivité établis et définis, la dynamique d'un débat entre 12 personnes devant déboucher sur une conclusion unanime constituerait le gage d'une objectivité alternative. Ce n'est donc pas le cas. Chacun jugera dans son fort intérieur. Comment se forger une intime conviction? Les jurés pourront poser des questions à l'accusé et aux témoins, mais le président nous a mis sévèrement en garde. Il ne faudra jamais s'exprimer d'une manière qui révélerait une opinion ou un sentiment. Il a ajouté qu'il nous était interdit de faire une enquête personnelle. Nous ne pourrons pas parler avec des tiers tant que le procès ne sera pas terminé. Il nous a même déconseillé de lire les articles des journaux relatant l'affaire. J'ai l'impression que l'appareil policier et judiciaire entend garder la main mise sur le procès. Sommes-nous vraiment juges à part entière? Des juges sous influence, sans doute. Je voudrais relire l'acte d'accusation, mais je n'en ai plus le temps.
La cour.
Lundi 15h. Le président interroge l'inculpé.
Avant la soirée des faits, avez-vous consommé de l'alcool?
J'étais à City 2 avec des copains, monsieur le président. On a fumé un joint, ça donne soif, on a bu une bière.
Une bière seulement? Pas de whisky?
Comme d'habitude, monsieur le président, quelques bières et un petit verre de whisky.
Oui. Et après, vous vous êtes rendu dans un Luna Park, dans le quartier de la Bourse?
Oui, monsieur le président.
Aviez-vous de l'argent pour jouer?
Non, monsieur le président, mon copain Saïd m'en a prêté.
C'est cela. Et plus tard, vers 19h, vous déclarez avoir quitté seul le Luna Park. Est-ce bien exact?
Oui, monsieur le président.
Où vous rendiez-vous?
Chez moi, monsieur le président, à Anderlecht.
Et que s'est-il passé alors?
Je traversais la place Fontenas quand une voiture blanche s'est arrêtée. Le conducteur, un vieux monsieur, m'a demandé si je voulais aller boire un verre avec lui.
Il s'agit bien de monsieur Leroy, la victime.
Oui, monsieur le président.
Et vous avez accepté?
Oui, monsieur le président.
Cette invitation ne vous semblait pas bizarre?
Vieux monsieur, il avait l'air gentil et puis il m'a promis de me donner 3000 francs si je venais avec lui.
C'est lui qui a proposé? Ou c'est vous qui lui avez demandé de l'argent?
Je lui ai demandé combien il me donnerait si j'acceptais de venir avec lui.
Mais il ne s'agissait pas à ce moment d'avoir des rapports sexuels?
Non, non, monsieur le président, c'est plus tard chez lui qui me l'a demandé.
Et vous ne vous êtes pas méfié? Vous ne vous doutiez de rien?
Non, monsieur le président. Je voulais juste un peu d'argent facile. Je voulais pas voler, je voulais pas frapper, je voulais pas...
Oui, bon. Vous voilà donc en voiture avec monsieur Leroy. Que se passe-t-il?
J'ai remarqué qu'on se dirigeait vers le sud de la ville. Le monsieur n'arrêtait pas de me parler. Il racontait toute sa vie. Il me parlait du Maroc. Je lui ai demandé où on allait. Il m'a répondu qu'il m'invitait chez lui. Je voulais 3000 francs, j'en avais besoin. Alors j'ai suivi et on a bu du whisky.
Une bouteille entière, avez-vous déclaré?
Oui, monsieur le président.
Après tout ce que vous aviez déjà ingurgité dans l'après-midi, vous deviez être dans un drôle d'état.
Oui, monsieur le président, j'étais ivre. Et j'avais plus toute ma tête.
C'est ça. Et puis, que s'est-il passé?
Monsieur parlait toujours, le téléphone a sonné. Monsieur s'est rendu dans la chambre pour répondre, puis est revenu. Et il s'était mis en pyjama, il n'avait pas enlevé ses chaussettes. Et il s'est mis à côté de moi et il a commencé à me caresser. Il m'a dit que j'aurais les 3000 francs si je voulais bien...
Oui, le pénétrer dans l'anus, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, monsieur le président. J'ai accepté pour avoir l'argent.
Ensuite?
Il a ouvert un paquet de préservatifs, il m'en a donné un. Et j'ai mis la capote moi-même. Et j'ai fait cette chose-là sur le lit. Mais je suis pas un PD.
D'après votre déposition, ça s'est gâté quand monsieur Leroy vous a demandé de vous sodomiser à son tour.
J'ai refusé, monsieur le président. J'ai dit que je ne faisais pas ce genre de truc. Alors monsieur s'est excité, il m'a engueulé. Il m'a pris par la nuque et il m'a obligé de me mettre à genoux et il voulait que je suce sa bite. Je comprenais pas ce qui se passait et j'avais peur. Je me suis relevé, j'ai saisi une bouteille, pas la bouteille de whisky, une bouteille bleue, et je l'ai frappé plusieurs fois à la tête. Et le monsieur, il est tombé dans les pommes.
Oui, mais pourquoi diable n'êtes-vous pas alors parti si monsieur Leroy vous demandait des choses qui vous déplaisaient?
Je voulais partir, mais pas sans l'argent. J'ai fait l'imbécile, monsieur le président.
Oui, ça. Vous avez vidé le portefeuille de monsieur Leroy où il y avait de l'argent et diverses cartes bancaires. Vous avez dérobé une dizaine de chèques. Et puis?
Monsieur s'est réveillé et il m'a attaqué par derrière. Nous nous sommes battus et je lui ai fait un balayage. Il est tombé et sa tête a frappé le sol. Je le lis avec le fil du téléphone, je croyais qu'il dormait. Il ronflait. J'ai jamais cru qu'il était mort, sinon je l'aurais pas ligoté.
Et par la suite, vous avez pris tout ce que vous pouviez prendre, un téléviseur, un appareil photographique et la clé de la voiture avec laquelle vous êtes parti. Vous n'avez pas oublié d'effacer les empreintes et de fermer à clé la porte de l'appartement.
La femme de ménage découvre le cadavre de Monsieur Leroy au milieu de l'après-midi. Elle appelle la police. Il y a des traces de sang dans tout l'appartement, depuis la chambre jusqu'aux toilettes. Celles-ci sont remplies d'excréments et de vomissures. Un grand désordre règne. Dans une armoire, on découvre des photos à caractère homosexuel et un exemplaire de la revue Spartacus. Le corps de Monsieur Leroy présente de nombreuses lésions, notamment au niveau de la tête. Le médecin légiste conclut que la mort est causée par l'ensemble des coups et n'est survenue que quelques heures avant la découverte du cadavre.
On déploie un écran. Projection d'une série de diapositives du cadavre tel qu'il fut retrouvé, avec ses blessures, son pantalon de pyjama et ses chaussettes. Des plans éloignés, des plans rapprochés. L'horreur.
Lundi soir.
Rentré chez moi, j'allume une cigarette. Je me sers un verre de vin et je prépare à manger. J'enclenche le lecteur de CD. Je feuillette le journal. Je dépouille mon courrier. Une série de gestes banals, quotidiens, qui, ce soir, me paraissent insolites, déplacés. Un sentiment étrange m'envahit. Je ne suis plus tout à fait moi-même. Je suis entré dans un autre monde et, pour quelques jours, j'appartiendrai à cet autre monde, celui de la justice. J'ai depuis toujours souhaité être désigné juré. 12 hommes en colère est un grand classique de mon enfance. Autopsie d'un meurtre également. Je ne manque aucun spectacle mettant en scène un procès d'assises. Pour l'instant, je me complais dans la perspective d'un rôle à jouer dans un théâtre dont je ne fus jusqu'ici que le spectateur avide. On peut avoir envie d'être juré, on ne s'instaure pas soi-même juré. Il n'y a pas d'appel d'offres à ce sujet. La désignation des jurés est régie par des procédés de hasard que John Cage n'aurait pas reniés. Des réserves de jurés sont constituées par les communes. La rue où j'habite a dû être tirée au sort, car il y a 2 ans environ, l'agent de quartier passait dans toutes les maisons avec ses formulaires d'enrôlement. Les réserves sont formées pour un temps limité, 4 ou 5 ans, je crois. Elles comptent beaucoup de personnes qui ne seront jamais appelées. Quel autre procédé de hasard a-t-il été utilisé pour qu'un pro-justicien m'apprenne il y a quelques mois que j'étais convoqué au palais de justice un lundi matin de juin à 8h30? J'étais content d'être parmi les appelés. Encore fallait-il que je sois disponible ce jour-là, que la maladie m'épargne, qu'aucune urgence professionnelle ou autre ne m'ait contraint à m'abstenir. Et puis, il a fallu être accepté par l'avocat général et l'avocat de la défense lors d'une procédure incertaine. Il a fallu enfin que mon nom sorte de l'urne. Des aléas en cascade. La justice a la réputation d'être un monde autosuffisant, clos, avec ses rituels et ses codes, jaloux de ses prérogatives. Le jury populaire ouvre-t-il une brèche dans ce monde? Je le suppose. Je l'espère. Et si les autres grands corps institués fonctionnaient de pareille manière? Si par exemple la décision d'entamer ou non une guerre était déléguée à 10 de citoyens tirés au sort? Je me couche et je pense à l'accusé qui en ce moment même doit se morfondre dans sa cellule. Emporté par ma perception esthétique du procès, j'en viens presque à lui reprocher d'être passé aux aveux. Ah, Il gâche mon plaisir, celui de l'investigation, de la recherche tourmentée de la vérité, du parcours dans le labyrinthe d'interprétations opposées. Je cherche un sommeil qui n'arrive pas tout de suite. Je lis et relis l'acte d'accusation.